C'est l'heure de la chronique Coton-Tige. Vous avez tous vos petites habitudes d'oreilles et nous, on a décidé de les dénicher. Alors, il faut bien de temps en temps titiller un peu vos oreilles, alors on va vous chercher des noises. Aujourd'hui, on va chercher des noises à la partie symptomatique de la musique dans les courts et longs métrages des studios Disney. Qui ne se souvient de ces soirées où éclate grand classique un karaoké collectif où tout y passe, du rêve bleu ou Hakuna Matata? Pourquoi cette influence dans nos vies et dans notre culture des musiques de films Disney? Les musiques Disney sont des produits internationaux. Chaque langue cherche à se réapproprier tant bien que mal les paroles. Pour rigoler un peu jaune, on vous conseille la chronique YouTube. Non mais t'as vu ce que t'écoutes sur ces subtilités de traduction.
La version québécoise.
La patte d'une certaine esthétique américaine nourrie de musical, de pastiche et pot-pourri rappelle l'héritage satirique et populaire du cabaret. Un retour aux premières productions des studios permet de constater un soin tout particulier accordé à la musique folklorique qui jalonne le territoire américain, de la country des forêts canadiennes, en passant par la folk de western et les tam-tams des Amérindiens. Alors, pourquoi attribuer aux chansons Disney une valeur faussement universelle? Les mélodies sont très simples, mais surtout, on se sent de la formule qui les rend mémorisables dès la première écoute. De plus, la musique souligne des situations festives, des moments d'angoisse et de doute. La recette veut que toute production Disney soit porteuse d'un message d'amour, souvent conclu dans un happy end plus ou moins romantique et guimauve. La longue tradition Disney mérite qu'on lui rende hommage. Lorsque son fondateur lance le projet de synchroniser d'un bout à l'autre un dessin animé avec une bande-son en 1928, pour le court-métrage Steamboat Willie, c'est une révolution. Avant, c'était le cinéma dit muet. Pas d'enregistrement du son possible. Du coup, la musique, s'il y en avait, était improvisée. Le travail de Walt a été d'explorer comment la musique pouvait accompagner et structurer l'image de façon cohérente. Les techniques déployées inaugurent toute la rhétorique musicale qui caractérise la musique de film aujourd'hui. C'était pas facile. Imaginez-vous inventer un système pour ajuster de la musique, orchestrale en plus, sur la figure d'un petit personnage animé au milieu de 24 images par seconde. Un premier système, appelé système flash, utilise un métronome dont le battement sert aux animateurs à placer toutes les 8, 12 ou 16 images. Là un gag, là un effet. Ça suppose que la musique de dessin animé est avant tout une musique d'effet. La limite du système flash, c'est la réactivité du chef d'orchestre. Sa liberté d'interprétation est tout à coup entièrement subordonnée au défilé des images. Partition remaniée, effectif orchestral réduit, dispositifs d'écho permettront d'obtenir une patte sonore plus incisive. Le langage est remplacé par des onomatopées, des cris, des sifflements, des soupirs, des grognements. C'est l'arrivée du bruitage. Tous les éléments produisant un son se fondent dans la trame musicale sans que jamais la pulsation rythmique ne soit interrompue. Ça évite tout ralentissement de l'action et rend la piste sonore encore plus spectaculaire. Alors, comment la musique s'intègre-t-elle à l'image? Entre les années 1929 et 1938, les studios Walt Disney enchaînent de petites productions dites de haute couture, courts-métrages animés appelés Silly Symphonies ou Symphonies folâtres. Dans ces courts-métrages, les effets sonores sont visibles par l'apparition de notes de musique, d'étoiles et autres traits dessinés autour des personnages. De plus, il s'agit tout autant d'une petite histoire que d'un concert, notamment dans les sujets les plus pastoraux. La Silly Symphony oscarisée The Old Mill, le vieux moulin, en 1937, reprend par exemple l'apprenti sorcier de Paul Dukas par un chœur de grenouilles. The Bird Store, le magasin d'oiseaux, en 1932, préfigure tous ces dialogues sifflotés chantés entre piafs et princesses, que ce soit pour Cendrillon, Blanche-Neige ou plus récemment Réponse. Enfin, tous les personnages se dandinent ou dansent, battent la mesure du pied. La musique est à la fois le chant de la nature et l'âme de l'action, miroir et double sonore de l'image. Les œuvres Disney sont un terrain d'excellence de la citation musicale. On pense au récent Fantasia, mais c'est une tradition de longue date. D'ailleurs, parmi les précurseurs des nombreux compositeurs qui ont collaboré avec Walt Disney, on trouve les facétieux Spike Jonze ou encore Peter Schickele alias PDQ Bach. Véritable clown, leur spécialité est de réécrire et d'arranger avec humour les grands classiques du répertoire. Les Silly Symphonies sont une façon de réfléchir de façon critique à la musique et à ses différents mondes, grâce aux images qu'on lui associe. Musicland, Jazzland contre Symphonyland, met en scène la guerre entre deux mondes musicaux, grosso modo le jazz et le classique, en allant jusqu'à faire cracher la chevauchée de la Valkyrie de Wagner à une armada d'orgues transformée en canon. L'accompagnement musical Disney se caractérise par une mélodie de timbres incongrus, par le détournement d'objets usuels comme instruments, par le surdimensionnement ou le rabougrissement de la patte et du volume sonore, par des accélérations soudaines, des ralentissements abusifs, par l'excès de glissandi, par la superposition de thèmes. Un mot aussi sur les chœurs, qui donnent au moment d'emphase cet aspect un peu mielleux. Les musiques Disney ont accompagné l'innovation musicale. Les années 1920 voient éclore le jazz en même temps que les dessins animés. De nombreux artistes de ce milieu collaborent donc pour les bandes-son. Parmi eux, le génial clarinettiste Benny Goodman dans All the Cats Join In et After You've Gone, mais aussi les rythmettes, les Andrew Sisters et bien d'autres. Plus récemment, les musiques Disney ont inspiré des mix jouissifs au DJ australien Pogo. Lénoise vous conseille vivement d'aller lire l'ouvrage du compositeur Michel Bosque, L'art musical de Walt Disney, l'animation de 1928 à 1966, publié chez l'Harmattan. Un grand merci à tous les bénévoles de Radio Campus Paris qui ont prêté leur voix pour nous chanter leur chanson Disney.
C'est la fête.
Si vous avez aimé cette chronique, vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Radio Campus Paris. À bientôt.